France Inter.
Ce qui compte pour un acteur, c'est la personnalité. Sa présence.
Je vous répondrai non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule dans tes lèvres. Ok?
Ça peut couler, hein.
On en parle. Tout.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
C'est elle qui le dit. Dans un livre, la scène apparaît, c'est tout. Elle n'a pas à être expliquée, elle s'impose par les mots. Là, ça doit être pareil, mais avec une preuve visuelle. Cette preuve visuelle, c'est ce premier film sur notre affiche ce matin. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine au pluriel, bonjour à tous.
La preuve par l'image, après le jeu JE du livre, il s'agissait de filmer le jeu avec les autres pour savoir ce qu'il se passe pour eux, l'histoire qu'ils se racontent. Bonjour Christine Angot.
Bonjour.
Dans ce film, une famille, vous retournez à Strasbourg, la ville où vous avez rencontré pour la première fois à 13 ans votre père qui vous a fait subir un inceste. Un chemin vers le passé avec des témoins au présent. Une famille sur grand écran mercredi prochain. Et puis parce que nous sommes une émission de cinéma, nous voulions vous donner carte blanche, vous laisser choisir 5 films importants à vos yeux. C'est peu, mais c'est déjà pas mal pour découvrir la spectatrice que vous êtes. Enfin, les sorties de ce mercredi de Blanche Gardin aux Chroniques de Téhéran, c'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
J'en ai marre de parler de l'inceste. J'en ai marre que mon travail soit envahi par ça. J'en ai marre de m'endormir en y pensant. Et de me lever en me demandant ce que je vais pouvoir écrire.
Cette phrase est extraite de votre film, Christine Angot, Une famille, votre premier film. Après tous ces livres, une occasion où peut-être l'envie était-elle là depuis longtemps, et puis il n'y a peut-être pas de hasard, invité pour des raisons professionnelles à Strasbourg, où votre père a vécu et où sa femme et ses enfants vivent toujours. L'envie de prendre une caméra, c'est une chose, faire un film, c'est une autre chose.
Oui, c'est sûr.
C'est très différent.
Oui, comme c'est une chose d'écrire et c'est une autre chose de faire un livre.
Oui.
Oui. Mais en même temps, quand on écrit et qu'on a une sorte de passion de transporter les choses réelles dans un espace fictionnel, un espace qui n'existe pas, voilà. Et parce qu'on le voit beaucoup mieux, en fait, que quand on est dans la vie même.
Ouais.
Là, on voit rien du tout. On est occupé à vivre et à ressentir certaines choses. Donc, on voit pas. Alors que quand c'est dans un autre espace, qui peut être un livre, mais qui peut être aussi, évidemment, un film, puisque les deux, cinéma et littérature, sont des arts de la narration. C'est un peu la même chose.
Une caméra comme un stylo?
Non, pas exactement, parce qu'un stylo, j'ai besoin de personne pour le porter à ma place.
Oui.
Alors qu'une caméra, oui. Le son, pareil, je ne peux pas tout faire.
Non.
Et je ne le souhaite pas d'ailleurs. Je pense que c'est aussi ça l'intérêt du cinéma, c'est se partager les tâches et de regarder la même chose à plusieurs.
Justement, c'est comment, alors comme vous êtes une grande solitude quand vous écrivez, c'est comment de travailler avec d'autres? Comment vous l'avez vécu ça? Être accompagné?
C'est différent. Disons qu'on s'aperçoit tout d'un coup que le désir de faire la chose, vous n'êtes pas seul à le ressentir et à le porter.
Mais en même temps, est-ce qu'on perd...
C'est ça qui est drôle. C'est pas, les gens ne sont pas là pour faire un travail, pour exécuter une tâche. Non, ils sont là pour inventer la chose
ensemble,
avec vous, avec quoi. Vous.
Oui, mais on n'a pas l'impression d'être désapproprié, vous voyez ce que je veux dire?
Ben justement non, parce que
en tout cas, les personnes avec qui j'ai travaillé, je pense vraiment toutes sont dans une attention,
une empathie.
J'en sais rien. La monteuse, très certainement, ouais. Pauline Gaillard.
La chef-op, Caroline Champetier.
Caroline, c'est autre chose, parce que Caroline, elle est moi,
ouais,
quand elle est sur le plateau, en fait. Et donc, c'est quand même une très forte adhésion. Ouais. Ça demande une très forte adhésion, un très fort engagement, une très forte croyance à ce qu'on fait.
Donc la caméra, c'est un témoin de ce qui arrive. On est tous témoins de cela. Vous savez, on parle parfois du cinéma ouais. vérité.
Mmh. Vous pensez témoin que c'est moins actif. Hein.
Ouais. Vous pensez que c'est du cinéma vérité ce que vous avez fait?
En tout cas, je vois. que ce film montre certaines choses comme elles sont.
Oui.
Donc la vérité. Donc des vérités.
Alors rien n'est écrit, tout se joue en direct, comme à Strasbourg. Vous êtes proche de cette porte où habite la femme de votre père. On va pas passer l'extrait. On va passer juste le début quand vous êtes à la porte.
J'y vais.
Ouais, c'est pas moi qui peux... Je veux pas qu'elle entende ma voix.
D'accord.
Qu'est-ce que tu peux dire?
Dis-moi.
Bah, je sais pas, que t'apportes des fleurs ou... alors je sonne, je dis que c'est moi.
Non, je dis bonjour, Madame Weber est là.
Il est après. Après. Qu'est-ce que tu dis après? Tu veux dire c'est à rez-de-chaussée?
Alors, la suite est dans ce film, Christine Angot, une famille...
Je peux dire quelque chose
oui,
dès maintenant?
Oui.
Parce que c'est très intéressant la façon dont vous avez présenté la scène. Vous avez dit que vous allez présenter la scène où je suis à la porte.
Oui.
Mais comme vous savez, c'est pas comme ça qu'on dit normalement. On dit où je suis devant la porte,
oui.
devant les sonnettes.
Oui.
Mais vous avez dit où je suis à la porte,
oui.
parce qu'en vérité, j'ai toujours été à la porte. Oui. Hein. Donc là, je suis à la fois à la porte et devant la porte. Donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais rester à la porte? Ou est-ce que je suis juste devant la porte et que la porte va s'ouvrir pour une fois?
Oui.
Donc c'est très important. Et je pense que si vous avez formulé les choses comme ça, c'est parce que vous avez vu le film et que voilà, c'est exactement ça qui se joue.
Si vous l'aviez écrit, cette scène... elle n'aurait pas été aussi forte. Elle n'aurait pas été pareille.
Elle n'aurait pas été pareille,
non.
Ça, c'est sûr.
Oui.
Parce que tout simplement.
Entre l'imaginer et la vivre.
J'aurais pu imaginer les dialogues. C'est ce que je fais en général quand je fais un livre. Mais toujours avec la mémoire de choses que j'ai entendues ou que je crois possibles. Ça, c'est certain. Je ne peux pas inventer une personne.
En revanche, à l'image, il y a votre émotion en plus, que vous n'auriez pas pu décrire peut-être dans un texte, qu'on voit, qu'on
Exactement.
Ressent. Il y a une tempête à l'intérieur.
Voilà.
Ça se voit à l'image. Et c'est pour ça que le cinéma est important. Que faire un film est important.
Oui, parce que... c'est l'espèce de... Comment dire le réel, quoi. Le réel en littérature, c'est non seulement possible, mais c'est la raison d'être de la littérature. C'est-à-dire, c'est pouvoir faire rentrer dans un livre la vie telle qu'elle est. Et là, c'est la même chose. L'effet de réel est... Comment dire, c'est comme si, et d'ailleurs, c'est comme si il n'y avait pas d'écran, quoi. Et quand je dis, quand on est devant la porte à l'entresol, après avoir monté l'escalier, et que je dis, vous entrez aux deux personnes qui tiennent la caméra, qui tiennent chacune une caméra, forcément, forcément, puisque puisque c'est devant les devant le la caméra qui deviendra écran.
Bien sûr.
Donc c'est ce qui se passe.
Mais ça, vous n'auriez pas pu le faire toute seule. Même
bien
vous,
sûr que non.
Vous toute seule avec une caméra, vous n'auriez pas pu le faire.
Bah bien sûr que non.
Donc l'image vous aide énormément là, dans cette démarche. Donc après, il faut fabriquer un film, fabriquer, construire. Donc à partir de cette scène-là qui est très importante, qui est presque une scène pivot, comment vous construisez autour? Vous vous dites, je vais aller voir ma mère.
Alors j'avais déjà l'intention d'aller voir ma mère, de toute façon.
Oui.
D'aller voir le père de ma fille, avec qui j'ai été mariée pendant 18 ans. Oui, j'avais de toute façon plus ou moins ça dans la tête. Mais disons que là, devant l'importance de ce qui est dit par la femme de mon père, c'est important ce qu'elle dit.
Ouais, pour parce le moins.
Bah oui, c'est très important pour nous. Ça nous éclaire beaucoup sur ce qui se passe.
Ce que je disais, comment les autres vivent ça, comment ils se racontent.
L'histoire,
le problème des autres, c'est qu'ils parlent toujours d'eux d'abord. C'est un problème, ça, quand même.
Oui et non.
C'est un peu ce qui se passe avec votre mère.
Oui, mais c'est
elle parle d'elle.
Est-ce que c'est un problème? C'est ainsi.
Ouais, donc c'est ainsi.
C'est intéressant. Moi, ce qui m'intéresse.
C'est plutôt honnête, même qu'ils le disent comme ça.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe. Donc, j'ai pas de commentaire à faire sur c'est un problème ou je préférerais que ce soit autrement, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qui se passe et de l'enregistrer. C'est ça qui est intéressant.
On va écouter la scène avec votre mère, celle que vous avez choisie.
C'est curieux parce que, en t'écoutant, là, je me dis, c'est vraiment curieux parce que j'ai l'impression que tu n'as pas du tout compris ce qui m'est arrivé à 13 ans.
Bah, si.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Ce que je veux dire par rapport à toi, c'est quelque chose qui a bougé entre nous à ce moment-là. Il y a eu, je sais pas comment dire, moi, il y a eu une cassure, il y a eu quelque chose. Il y a quelque chose que moi, je ressentir comme une cassure.
T'es sûr que c'est ça?
Il y a eu une forme de changement entre nous, très profond quand même.
Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre?
Ah bah si, bah moi j'en ai à foutre.
Qu'est-ce que j'en ai à foutre?
Oui, bah peut-être.
Du changement de relation avec toi au moment où je suis en train d'être tuée?
Mais oui.
Au moment où ma vie est en train d'être saccagée?
Je comprends pas.
Qu'est-ce que j'en ai à foutre de cette petite histoire? Tu vois que oui, j'ai un problème avec ma mère qui normalement, ça va se résoudre, etc.
Oui,
bah, Qu'est-ce que j'en ai à foutre?
Ta mère, elle ne le savait pas. Et, est-ce qu'elle a constaté?
Mais maintenant, tu le sais. Et t'as beau le savoir, tu continues à parler de cette cassure. Tu parles pas de ce qui m'est arrivé, bon sang. C'est ça qui m'est arrivé.
Et je sais pas comment tu veux que j'en parle.
Mais que t'en parles déjà.
Je suis incapable d'en parler.
Eh ben oui, je vois.
Eh ben oui, je suis incapable d'en parler.
Eh ben écoute, tu te rends compte? Imagine ce que ça représente pour moi. Juste un instant. Essaye de me voir. Un instant. J'existe, j'existais. J'étais là. J'avais un truc grave qui m'arrivait. Grave. Et le truc grave qui m'arrivait, c'était pas j'ai un problème avec ma mère, j'arrive pas à lui parler. C'était ça, bien sûr, mais c'était lié à ce que je subissais. J'ai vécu ça.
Christine Angot, le cinéma, c'est de l'image, mais c'est du son. Et là, on le perçoit très bien. Votre voix change. Non, mais c'est vrai que c'est fou, hein. Dans une émotion, votre voix est super aiguë. Et ça, c'est fort à montrer, je trouve, dans un film, non?
Disons que même si ça peut être gênant.
Oui.
Comme parfois des images de soi où on se voit en photo et on se dit, non, c'est pas possible, on va pas sortir cette photo.
Là, ça vous gêne, par exemple, d'entendre cette voix-là ou pas?
C'est pas la voix la mieux maîtrisée que je puisse produire, j'espère. Mais c'est ainsi.
Ouais.
C'est comme ça. C'est comme ça à ce moment-là.
Ouais.
Et cette voix-là, il faut pas la trahir non plus.
Non.
Hein, c'est-à-dire, voilà.
Mais
elle dit quelque chose qui existe.
Mais vous ne trouvez pas que votre mère a une voix pas. Il y a beaucoup de similitudes entre votre voix et celle de votre mère, non? Ça vous gêne que je vous dise ça
non,
ou pas?
Non, pas du tout, mais non. Simplement, je ne m'en rends peut-être pas très bien compte. Mais bon, il n'est pas complètement anodin d'avoir une mère et d'être grandir avec elle et par conséquent d'adopter peut-être certaines, certains phrasés.
C'est pas dans la scène, mais parce qu'après, elle fait un vrai travail avec vous quand même, parce qu'elle va, c'est beau. Enfin, elle travaille comme une actrice, quoi, dans ce film. Elle va écrire un texte et elle vous rejoint parce que c'est vrai, c'est beau. Elle s'improvise écrivain et elle écrit ce texte.
Elle l'avait écrit bien avant que je fasse le film. Enfin, bien avant que je vienne la voir avec la caméra.
Certes, mais elle vous le lit face à vous. Et c'est beau, ça, non?
Bah, c'est-à-dire qu'elle me l'avait donné comme ça, juste pour que je le lise complètement hors du film.
Oui.
Et puis, j'ai sorti de mon sac au moment où les caméras étaient là, sur elle, le texte. Elle s'y attendait absolument pas. Et ce que je lui donne à ce moment-là, c'est, vous savez, ces bouts de papier ou ces petits carnets dans lesquels parfois les gens qui n'ont pas du tout d'intention ou de volonté ou d'ambition d'écrire de la littérature ou d'en faire, ou de faire un roman, je sais pas quoi, juste ils prennent un carnet ou un bout de papier et ils mettent sur ce papier ce qu'ils ressentent. Voilà. Le papier comme une espèce de... Pour poser ses... Pas pour le faire lire à qui que ce soit, mais pour... Ça, c'est quelque chose, ça, qui se fait. Voilà. Et donc, c'est ça qu'elle fait. Moi, je trouve ça... C'est tellement... Je trouve ça très, très, très bouleversant, en fait, cette action-là, d'avoir besoin d'un bout de papier pour poser ce qu'on ressent.
Est-ce que vous avez fait ce film-là, Christine Angot, une famille, pour préserver les autres aussi? Est-ce que vous l'avez fait pour... Non, mais c'est vrai, pour préserver l'avenir des autres? Est-ce qu'il y avait cette intention-là dans le film? Pourquoi vous seriez...
Parce que je m'attends pas à ce qu'on me dise ça.
Ça dépend des autres.
Non, pas du tout. Non, ça dépend pas des autres. Mais je veux dire, j'ai pas tellement l'habitude que des journalistes me posent cette question, à vrai dire. Donc, plutôt le contraire en général que les journalistes me demandent. Disons que c'est l'idée de nous tous, en tant que on forme une communauté, une humanité, qu'on a des sortes de responsabilités humainement dans ce qu'on a à comprendre, de ce qu'on a à voir, de ce qu'on a à savoir, de ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre... à la porte, derrière la porte, derrière les portes. Et là, est-ce que, bon, ça nous concerne pas? Comme dans la zone d'intérêt, par exemple.
On en parlera plus tard.
Voilà. Ou est-ce que, eh bien, quels que soient les murs et les portes, ça nous concerne?
Je dis ça parce que l'avocat vous dit, tout ton travail est de portée générale, ton histoire appartient à tout le monde. C'est fort ça quand même. Mais, donc ça rejoint effectivement le fait de faire ça pour les autres.
Bah, disons, je sais pas si c'est pour les autres, mais parce que... C'est avant tout parce que c'est ma passion. Donc ça, ma passion, j'ai besoin, moi, de l'exercer. Voilà. Bon, et c'est pas une passion, évangélique, uniquement. C'est aussi une passion littéraire et artistique. Donc qui peut évidemment s'inscrire dans une autre forme artistique de narration qui est le cinéma.
Je sais pas comment on se sent à la fin d'un livre quand vous écrivez. Comment on se sent à la fin d'un film comme ça?
Bah alors déjà, il y a plusieurs fins. Je me suis rendu compte à un film parce que
après le montage, vous
voulez dire, le montage.
Bah, c'est-à-dire que oui, un livre en effet, à un moment, tac. Même s'il y a encore après, dans mon cas. Des mois et des mois de revisite des manuscrits, de correction, etc.
Oui,
mais il y a un moment, et c'est comme ça qu'on sait que le film, le livre est terminé, c'est il y a quelque chose qui se dépose là, il y a une note, tac, et vous reconnaissez que c'est la fin. Bon, là, il y a eu aussi quand même ça, j'ai reconnu la fin quand à Nice, en allant filmer Léonore.
Votre fille.
Voilà, je me suis dit
qui dit quelque chose.
Voilà, je me suis dit, ok, ça, là, tout n'était pas filmé, loin de là, à ce moment-là, mais je me suis dit, ok, ça, tac, c'est pour la fin. Mais, en revanche, par exemple, la musique, et c'est parce que c'est, la musique, ça compte aussi, quand même, énormément. Oui. Bon, et notamment à la fin.
Oui.
Bon, parce que c'est, qu'est-ce qu'on, justement, je dis, qu'est-ce que je leur dis à ceux qui sont là, dans la salle? Donc, la musique, c'est fondamental à ce moment-là. Et là, donc là, sur cette fin-là de la musique, ça a été un tout petit peu... ça ne s'est pas fait tout seul. J'ai eu l'instinct, de, tout de suite, de la mère, de Charles Trenet.
Oui.
Mais après, la musique, vraiment, il y a eu... pas mal de mouvements.
Et puis après, le film vit avec les spectateurs, ça encore, ça c'est quelque chose que vous connaissez pas, même si vous avez rencontré des lecteurs. Là, vous rencontrez des gens à chaud.
À chaud, oui.
Mais oui, juste à...
Qui viennent de voir le film.
Qui viennent de voir le film. Ça,
ensemble.
C'est une expérience,
ça. Qui viennent de voir le film ensemble.
Mais c'est ça, le cinéma.
Rien à voir avec la lecture d'un
livre.
Rien à voir.
Sauf qu'au cinéma, c'est intime et à la fois collectif. C'est un mélange des deux. Et vous aimez ces rencontres avec les...
Beaucoup. Vraiment. Ouais, oui. Sur toutes celles que j'ai faites jusqu'à présent, il y en a une seule qui s'est pas bien passée.
Ça veut dire quoi, pas bien passée?
Ben, ça veut dire que je me suis retrouvée tout d'un coup accusée de mille choses et à porter. Je pense que c'était... Il y avait beaucoup de femmes, c'est celles qui ont pris la parole à un moment, beaucoup de femmes de peut-être d'une génération où la valeur que les femmes avaient était liée à l'homme avec qui elles se mariaient.
Donc la génération de votre mère.
Oui, ou un peu plus jeune, vous savez, aussi, hein, on va dire, c'est quand même, faut pas même se souvenir que c'est quand même très récent, là, la petite inflexion qu'il y a, ça concerne les jeunes femmes qui ont 30, 35 ans, voilà, quoi, je veux dire. Et donc, tout d'un coup, elles étaient du côté de... Enfin, c'était évident, et sûrement, mais ça doit tisser une certaine culpabilité en même temps. Et elles étaient dans un truc assez ambigu, je dois dire.
Ça s'appelle Une famille, et ça sort mercredi prochain, mais on voulait vous recevoir comme spectatrice, et avec vos choix de films. Ça commence par un film qui s'appelle Madame 2, de Max Ophuls, de 53. Pour régler ses dettes, Madame 2, c'est Daniel Darieux, vend un bijoutier des boucles d'oreilles que son mari lui a offertes, et fin de les avoir perdues, le général va les racheter et les offre à une maîtresse. Bref, c'est un accessoire des boucles d'oreilles qui va devenir le pivot dramatique d'une narration. On écoute un petit extrait de ce film.
Je vais vous confier un secret. Notre bonheur conjugal est à notre image. Ce n'est que superficiellement qu'il est superficiel. Nous avons joué avec le feu. Moi surtout. Mais votre désir de partir prouve que ma confiance en vous était justifiée. Vous resterez à Paris.
Non, André, je vous en prie.
Vous traversez des moments difficiles? Eh bien, nous les traverserons ensemble. Napoléon n'a eu tort que deux fois dans sa vie, à Waterloo, et quand il a dit qu'en amour, la seule victoire, c'était la fuite. Il faut braver l'adversaire. Vous le pouvez. Vous pouvez tout ce que vous voulez. Vous êtes fiers. Je vous respecte. Je vous admire. Et je vous aime.
Pourquoi ce choix, Christine Angot, de Madame Dune, Max Ophuls, sur cette femme apparemment en représentation pour séduire?
Pour plusieurs raisons. D'abord parce que il y a plusieurs films de Max Ophuls, comme par exemple Le Plaisir, dont je me remets pas. Je ne me remets pas de leur subtilité, de leur vérité, de leur grâce, de leur beauté. Bon, déjà ça. Ensuite, pourquoi Madame 2 particulièrement? J'aurais pu dire Le Plaisir, que j'adore, mais
La Ronde.
Voilà, pourquoi Madame 2? Parce que derrière cette espèce de petite circonstance, de bijoux, c'est une sorte de circonstance. Bon, on a en effet cette femme qui est... C'est un film qui raconte ce qui arrive, ce que c'est que l'amour, comment il se pose dans le mariage, là, par exemple, pour elle, dans la stabilité, dans beaucoup de choses. Et puis, tout d'un coup, il y a quelque chose d'autre qui va se passer. Et ce moment, moi, si j'avais choisi un extrait, je crois que ça aurait été le moment éblouissant qui donne évidemment le titre, qui donne son titre au film, où c'est Vittorio De Sica qui joue le rôle, bon, et où ils viennent de se rencontrer, et elle prend une voiture, et il ne sait même pas son nom, le nom est là, et comme la voiture démarre, on entend juste Madame De. Voilà, Madame De, et le nom est suspendu. Ce nom qui est le nom du mari, ce nom qui ne la définit pas, ce nom
c'est
qui
vrai,
est social,
c'est vrai.
Ce nom qui se perd, et y a cette distance. Voilà, on connaît, il connaît pas son nom en entier. Et c'est merveilleux. Ouais. C'est merveilleux.
Le deuxième choix, c'est Welcome to New York d'Abel Ferrara, librement inspiré de l'affaire du Sofitel qui a fait chuter Dominique Strauss-Kahn, alors patron du FMI. Nous avons choisi une scène entre lui, Depardieu Desca, et sa femme Anne Sinclair, Jacqueline Bisset, dans cet appartement new-yorkais.
Quoi qu'il se soit passé, c'est un désastre. Voilà ce qui s'est passé. Un désastre. J'avais travaillé tellement. J'avais fait tout ce qu'il faut. Et tout. Tout est foutu.
Mais je suis pas sûr de vouloir être président, tu sais.
Je veux boire quelque chose.
C'est aussi ma vie.
C'est un verre d'eau. Je veux boire un verre d'eau.
J'ai bousillé ma vie.
Prendre un verre d'eau.
Tu sais que je suis dépendant, que je suis sexuellement dépendant. Tu sais que j'adore baiser.
Je vais prendre de l'eau, là. Je vais prendre de l'eau. J'ai besoin.
T'es au courant de ça ? C'est facile de dire. Ah, non, je veux pas. Je veux que tu fasses ça. Tu connais ma vie.
Christine Angot, pourquoi Welcome to New York d'Abel Ferrara ?
Je suis dingue de ce film.
Ah ouais ?
Mais dingue. D'abord, voyez... Bon,
c'était une épreuve pour moi.
La dépendance, bon, Abel Ferrara l'a fait beaucoup de films sur la dépendance.
Oui,
il parle de quelque chose qu'il connaît.
Oui, bon. Bad Lieutenant.
Voilà, il sait de quoi il parle. Ouais. Il sait de quoi il parle. Il le transporte sur un truc que nous, on croit connaître. Parce qu'on a vu les images. Il nous met devant la télévision, en fait. Sauf que c'est pas la télévision. C'est pas la télévision, c'est l'événement que mondialement tout le monde, dont tout le monde a vu les images, mais sans le penser, voilà, il se retrouve pensé par l'image et par lui.
Et qu'est-ce que ça apporte au cinéma à cette histoire qu'on a vue partout ?
La pensée. La pensée, la distance, l'intériorité de chaque personnage, plus naturellement le cadre du pouvoir, bien sûr, mais tout ça dans la subtilité. Voilà, en dépit de la brutalité, pour moi, c'est extraordinaire, ce film, parce que c'est comment, vraiment, le cinéma, avec très, très peu de choses, peut... Et en plus, là, dans un temps minimum, parce qu'il a fait ce film, combien de temps après les événements du Sofitel ?
Très peu.
Et tout le monde s'est trouvé horrifié devant ce film.
Oui.
Moi-même, j'ai pu le voir que
c'est 2014,
sur un écran
d'ordinateur.
J'arrivais même pas à le voir. Et parce que, en fait, je l'ai regardé parce que je me disais, mais c'est quoi ce truc ? Et je pensais, comme tout le monde disait que c'était nul, je voulais... Voilà. Et puis je me suis retrouvée devant un truc que moi je trouve extraordinaire, de vérité. Parce qu'il faut voir aussi toutes les scènes sexuelles du début.
Les 18 minutes d'orgie, mon Dieu.
Mais ça aussi c'est derrière des portes.
Ce qu'on n'a pas envie de voir.
Ouais.
Voilà. Ça aussi c'est derrière des portes.
Et là, en revanche, pas de scène de sexe dans Portrait of a Lady, Portrait de femme de Jane Campion.
Ah bah si.
Mais oui, il y a à travers elle et ses prétendants et cette envie d'être...
C'est-à-dire qu'il y a quand même une scène extraordinaire sur le plan qui dit quelque chose, en tout cas, de la sexualité, même si ce n'est pas une scène de sexe à proprement parler.
Oui. Ça,
mais
c'est
moi,
très
je
bien
n'ai jamais vu ça au cinéma. Jamais il y a une scène où on voit Nicole Kidman qui joue le personnage en train d'avoir un fantasme.
Oui.
Eh bien, franchement, pour montrer un fantasme au cinéma sans que ce soit ridicule, moi, j'ai jamais vu. Et en plus, c'est quelque chose, il y a une espèce de profondeur, une connaissance de ce qu'elle raconte, la réalisatrice.
Oui, Jane Campion.
Qui est insensé. Insensé.
On n'a pas beaucoup de temps, on va passer vite, malheureusement, à Canto Uno, Make to My Love, la directive Keshish. En gros, c'est un jeune garçon qui revient à 7 et qui observe le désir qui traverse toute cette jeune génération sur la plage et ailleurs. Pourquoi ce choix ?
D'abord parce que Abdelatif Kechiche, en dépit de tout ce qui se raconte, a découvert tellement d'acteurs. Tellement d'acteurs qui aujourd'hui sont des acteurs majeurs, quand même. C'est lui qui les a vus.
Voilà. Adèle Exarchopoulos lui a rendu hommage à la dernière cérémonie des Césars.
Voilà.
Afsia Herzi. Ophélie
Beau, Afsia Herzi.
Ouais.
Sarah Forestier.
Mmh. Oui.
Le garçon qui est dans le film, là, qui s'appelle Shaheen Boumediene.
Boumediene, oui.
Bon, voilà.
Mais en dehors des acteurs.
Et ensuite. Je sais pas, il y a une telle... C'est pareil, je veux dire, c'est quelqu'un qui me montre ce qu'il voit dans la vie. Mmh. Il me montre ce qu'il voit dans la vie. Et il y parvient. Il parvient à faire jouer ça aux acteurs. Il parvient à rendre cette espèce de mouvement à la fois superficiel et très profond. Qui se joue dans l'amour et la sociabilité de l'amour, avec une beauté formelle aussi, et puis une force, quoi. C'est-à-dire que quand on est là devant ce truc, on se dit, mais il va me mettre cette scène de danse là, comme ça encore longtemps. Mais oui,
il le fait,
et c'est magnifique. Ouais.
C'est pas sérieux, il nous reste même pas quelques secondes pour parler de la zone d'intérêt. Ce n'est pas sérieux. Donc on va peut-être éviter, on sait que vous l'aimez, ce film est très important pour vous.
Vous en avez déjà un peu parlé en plus.
Mais non. Et on va se retrouver après, Beyoncé, pour parler des sorties. Vous restez avec nous, votre film Une Famille sort mercredi prochain, Christine Angot.
There's a tornado. Take it to the floor now, ooh.
And I'll be damned if I cannot dance. sugar and liquor only too. Purse, spurs, boots. Sologenic, photogenic, shoot.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Les sorties, on va commencer par ce film qui s'appelle Chronique de Téhéran. 9 histoires, 9 plans séquences réalisés grâce à un subterfuge. Les autorités refusent à Alireza Khatami de tourner un long métrage, alors il réalisera 9 courts métrages avec son ami Ali Asghari. C'est 9 visages de la vie quotidienne à Téhéran, Laurent.
Oui, 9 moments de vie en caméra fixe. Donc sur les protagonistes et en voix off, on a l'administration avec un grand A, le pouvoir, sans visage, bureaucratique, méprisant, humiliant, vexatoire, kafkaïen, absurde. Et ça, c'est l'incroyable efficacité du film, justement, de ne faire qu'entendre ces voix qui sont en train d'opprimer en 1h17 ces 9 vies iraniennes. C'est absolument beau, bouleversant, et puis il y a aussi, heureusement, un peu de temps en temps d'humour, d'autodérision qui permet de presque de sauver le monde. Et à la fin du film, qu'on ne racontera absolument pas ici, mais qui est une sacrée transcendance.
Ouais, ouais, ouais. Il reste encore demain, c'est le premier film d'une actrice, animatrice, humoriste, Paola Cortellesi. L'histoire d'une femme mariée à Ivano Delia, donc mère de 3 enfants qui vit à Rome dans la seconde moitié des années 40 face à son mari autoritaire et violent. Leur routine morose prend fin quand, au printemps, leur fille va s'engager avec un jeune garçon. Et il est aussi question d'une lettre qu'on attend et qui pourra faire espérer un avenir meilleur, une démonstration lourde du patriarcat fait d'artifices formels, mélange de tragique et de comédie, Laurent.
Ce film n'a suscité en moi que des malaises. Malaise dans la récupération grossière et plate de l'univers de Scola, l'univers esthétique dans, évidemment, Une journée particulière, l'utilisation du noir et blanc. Malaise de voir le misérabilisme social qui n'a rien à voir avec le néo-réalisme italien, mais qui là aussi est cité. Malaise, et c'est beaucoup plus grave, évidemment, dans la représentation de violences conjugales incroyablement chorégraphiées, comme s'il s'agissait, avec une petite musique, comme s'il s'agissait de prendre la distance avec ça, mais on ne prend pas de distance avec ça, enfin pas comme ça en tous les cas, certainement pas. Malaise enfin, effectivement, avec un suspense final incroyable qui n'a rien à voir avec le propos sur les violences conjugales. Bref, l'ensemble est absolument raté.
Ça s'appelle Il reste encore demain. Ouais. Dans la peau de Blanche Houellebecq de Guillaume Niclou en Guadeloupe, Blanche Gardin préside un... C'est fou ce pitch. Préside un concours de sosie consacré à Michel Houellebecq. Il s'y rend, mais des événements imprévus vont plonger le duo au cœur d'une intrigue rocambolesque. C'est dans la veine un peu de L'enlèvement de Michel Houellebecq, mais bien plus drôle. Ce film libre, fantaisiste, révèle deux choses. D'abord, un sacré duo Gardin-Houellebecq, tous les deux très bons acteurs d'eux-mêmes. Et Houellebecq, décidément un vrai corps de cinéma, celui qu'on avait découvert dans Near Death Experience. Et puis, l'évocation d'un thème très sérieux, le colonialisme, sur un ton à la fois léger et profond, comme cette conversation surréaliste dans une limousine, toujours sur le fil, et même des moments émouvants, émouvants comme ce dialogue sur la solitude et l'amour, Laurent.
Oui, alors, reste que ce qui peut interroger en tous les cas, c'est que on se demande si Houellebecq s'intéresse au personnage qu'il est, parce qu'il joue un personnage d'écrivain, y compris manifestement en répondant à des entretiens et en répondant un peu n'importe quoi, ou en tous les cas des choses sur lesquelles il ne veut pas revenir, qui ne l'intéresse pas, qui le met de côté, et c'est ça qui est très étonnant, c'est une sorte de portrait d'un
marionnette, un peu, il est
exténué, à bout de souffle, oui. Où on se demande où est la littérature là-dedans, ça c'est une évidence absolue.
La Nouvelle Femme, premier film de fiction de documentariste Léa Todorov. En 1900, une célèbre courtisane a un secret honteux, sa fille Tina est née avec un handicap, disposée à s'occuper de cet enfant. Elle décide de quitter Paris pour Rome, elle fait la connaissance de Maria Montessori, Laurent.
Oui, alors c'est une histoire fausse, appliquée, enfin qui n'a jamais existé.
Une rencontre imaginaire.
Une rencontre imaginaire appliquée à un personnage. Alors pour le coup, dans le monde de la pédagogie, Maria Montessori, c'est oui. Vraiment une sorte de graal absolu. C'est ça qui, moi, me pose problème, c'est qu'on ne peut pas faire un film historique daté sans tenir compte du présent. Or, le présent de la méthode Montessori, c'est que, pour le moins, elle peut être discutée. Pour le moins, elle est mal évaluée. Pour le pour le moins, elle participe des financements publics sans en donner forcément une contrepartie éducative. Bref, il y a beaucoup de questions qui se posent sur Montessori, et la limiter à ce petit moment historique, en plus faux, moi ça me pose beaucoup de problèmes.
Mis Hermanos de Claudia Wakimila, c'est un film sur des frères Angel et Franco qui sont incarcérés dans une prison pour mineurs depuis un an, en attendant leur jugement. C'est le constat d'une jeunesse condamnée et au désespoir, Laurent.
Ouais, on va faire un petit tour du monde, là. Et ça, moi, j'aime beaucoup ça au cinéma. Vous allez voir, les trois films qui viennent sont des tours du monde. Là, on est au Chili. Dans ce huis clos, effectivement, d'une prison pour adolescents, avec évidemment des agressions, sexuelles, des dépressions, des brutalités, des sévices, de la drogue qui circule, etc. Le quotidien a d'une absolue banalité, mais d'un absolu terrifiant également, bien sûr, mais le tout avec un vrai style de cinéaste incontestable, c'est-à-dire c'est pas d'une sorte de naturalisme plat, il y a des vraies poussées narratives, il y a des vraies poussées stylistiques qui fait le Mr. Manos, un film très très intéressant.
Celui-là s'appelle Nom de Sana Naenda, c'est en Guinée-Bissau, en 69, une guerre violente qui oppose l'armée coloniale portugaise aux guérilleros du parti africain pour l'indépendance de la Guinée. Nom quitte son village et rejoint le maquis. Après des années, il rentrera en héros, mais la liesse laissera bientôt la place à l'amertume et au cynisme. Noir et blanc pour les années 70, la couleur lumineuse pour le contemporain.
Très intéressant, voyage entre le passé et le présent, c'est pas tous les jours qu'on a des nouvelles du cinéma de Guinée-Bissau et de la Guinée-Bissau, même, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est vraiment un voyage dans le monde qu'on fait, c'est de la révolution à la gueule de bois post-révolutionnaire, c'est ça dont le film parle, avec ce personnage principal, Nom, qui veut dire celui qui a le nom de tous. Je trouve que c'est assez beau.
C'est beau, ça veut dire un homme qui va incarner tous les hommes.
C'est magnifique, ouais. C'est magnifique. Et puis cette question qui traverse aussi le film, à un moment, pourquoi les gens deviennent-ils si mauvais? Voilà une question qui nous laissera en suspens, mais que le film pose, voilà.
Encore un autre voyage dans les Andes, c'est Diogène, c'est un premier film de Leonardo Barbilatore, au milieu des Andes péruviennes, donc deux jeunes enfants se retrouvent enlevés par leur père, un peintre héritier d'une tradition ancestrale, c'est austère.
Et oui, alors Chili, Guinée-Bissau, maintenant Pérou, hein, s'il vous plaît, c'est pas rien. Amateur de naturalisme brut, passez votre chemin. C'est entre le naturalisme, mais aussi une rêverie mythique, presque mythologique, comme souvent d'ailleurs dans le cinéma d'Amérique du Sud, on ne dit pas tout, il y a des blancs qu'il faut que le spectateur comble, et moi je trouve que c'est une position, après tout, aussi intéressante. On est souvent en état d'apesanteur, c'est un cinéma qu'on pourrait presque qualifier de bressonien.
Quelle chance de revoir sur grand écran Dersu Uzala d'Akira Kurosawa, premier film du cinéaste japonais hors du Japon, dans une autre langue, après l'échec de Barberousse qu'il avait complètement cassé. Kurosawa va retrouver l'espoir avec ce film, la rencontre en 1902 d'un officier topographe russe et d'un chasseur dans la toundra. Il va devenir ses yeux, ses oreilles, pour capter ce territoire et ses dangers, et au final son ami, un ami qui va le sauver dans une scène insensée de survie, une course contre la montre et contre le froid. C'est magnifique, et c'est Dersu Uzala d'Akira Kurosawa. On va aller à deux festivals.
Deux festivals dans le Gard, à Alès, Itinérance du 22 mars au 31 mars avec en invité principal Yamabas, l'actrice qu'on aime beaucoup, et puis aussi Daniel Prévost, Pascal Bonitzer, et toute une thématique sur le jeu dans tous ces états dans le cinéma. Et puis on va aussi à Fontenay-le-Comte la semaine prochaine avec comme thème principal cuisine et cinéma. Ça s'appelle À table. Je trouve ça assez réjouissant.
Ça m'étonne, voilà. De vous. On Bien va sûr. Ouvrir deux cadeaux à Christine Angot et on va faire écouter un petit extrait pour le premier film qu'on lui offre.
Devo partir. Domani.
Ma ciò che invece tu stesso mi hai dato. L'amore nel vuoto della mia vita. Lasciamo, lo distruggi tutto.
Che può sostituirti? Credo che io non potrò più vivere.
Io non riesco più a riconoscere me stesso. Che cosa sarà di me d'ora in poi?
Hai distrutto semplicemente l'idea che io ho sempre avuto di me.
Un film italien de 1968, c'est très dur à trouver.
Pier Paolo Pasolini, oui, Théorème.
Ça, je pensais.
Ah, bravo, bravo, bravo. On est très heureux de vous l'offrir. Merci un coffret beaucoup. Blu-ray DVD chez Sidonis Calista. Très beau coffret. Il est aussi agrémenté d'un livre. Il y a énormément de bonus, de spécialistes qui, évidemment, détaillent ce film qui est entre Jésus et Marx, hein, entre la révélation et la révolution.
Je pensais que ça aurait pu être l'évangile selon saint Matthieu.
Oui.
Ouais. Ben oui. Bien sûr.
Que j'aurais pu mettre dans
que vous auriez préférée. Pu mettre dans
c'est vrai, mais oui.
Bon, ouais. Pasolini.
Oui, mais celui-là aussi, quand même, ou pas?
Oui, ouais. Sûr, très bon. Important.
Et puis, un autre beau coffret, ah ouais, celui-là, il chose. Contient 6 films, rares ou inédits, du cinéaste Ozu. Qui, au moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'intéresse à la famille.
Bon, écoutez, hein. C'est des beaux cadeaux,
oui, hein, quand même.
C'est chez Carlotta.
Vous moquez de moi, là.
Non, pas du tout. C'est chez Carlotta. Il y a même un téléfilm totalement inédit, évidemment, qu'on peut découvrir. Magnifique. De merveilleux bonus, un livret de 80 pages de Pascal Alex Vincent que nous avions reçu oui. Ici même pour nous parler du cinéma japonais et de Ozu.
Merci beaucoup. Christine Angot.
Merci à vous.
Et ce film, Une famille qui sort mercredi prochain. Un salut très amical à Pauline Jacobiac, aux Amandiers. Un grand merci à notre belle équipe, Xavier Pestugia à la réalisation, Christophe Magère pour la préparation et Thierry Dupin pour la programmation musicale. Au revoir.
Salut.